Salut Greg.
Salut Jean-Fred, ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Mais oui, si le son est un peu particulier, c'est qu'on est sur le plateau des Pécalistes qui ont la sympathie de nous accueillir vu qu'on va enregistrer l'émission en quelques minutes et donc on est complètement à la bourre vu que la sélection de Patrick Fischer vient de sortir. C'est ton jour préféré dans l'année ?
De faire des listes.
Le jour où il y a une liste qui sort de plus de 20 noms à déclamer, mais vas-y, fais-la pas tout s'il te plaît.
Non.
Par contre, la liste est sortie. Première chose, il n'y a pas Romagnosi. Je crois qu'il ne faut pas commencer à paniquer, appeler la police et autres. Normalement, c'est tout à fait sous contrôle, je pense. Ce que je crois comprendre de la situation et ce qu'on nous a aussi un petit peu dit, c'est qu'ils ont communiqué tous les joueurs qui étaient à disposition du coach maintenant. Romagnosi ne l'est pas. Il a fini sa saison beaucoup plus tard, un peu plus tard que Nino Niederreiter. Niederreiter a dû obtenir la libération de la part de Winnipeg. Est-ce que ce sera le cas pour Romagnosi, ça dépendra des Nashville Predators, ça dépendra de son état de santé, de son entretien de sortie, etc. Il ne faut pas oublier que Romagnosi, c'est le capitaine de Nashville, c'est la figure de l'équipe.
C'est 9 millions.
Voilà, ce n'est pas Niederreiter. Niederreiter est un très bon joueur, mais il n'a pas la même valeur dans son équipe que Romagnosi. Donc c'est assez logique finalement que ça puisse potentiellement prendre un petit peu de temps. Le point positif, c'est qu'il n'y a que 7 défenseurs qui ont été nommés dans la liste définitive sur les 8, en théorie, qui sont à disposition. Donc il y a une place vacante et personne n'est piqué. C'est aussi un point qui me fait me dire que normalement il aurait peut-être dit à un Tobias Geiser ou à un Dominique Egli, Gaillard tu restes jusqu'à ce que, là il ne l'a pas fait, donc on a de quoi être assez optimiste que Romagnosi sera présent.
Absolument, parce qu'on rappelle la liste des 25, hein, donc 3 gardiens, 8 défenseurs, après on peut dire 9 défenseurs, 13 attaquants, mais en général c'est plutôt 8 défenseurs, 14 attaquants. On a les 3 gardiens, on a les 14 attaquants et on n'a que 7 défenseurs, comme tu le disais. Ce qui fait qu'il y aurait pu avoir d'autres joueurs pris, mais là, Romagnosi, c'est clair que ça change tout le visage. Et qu'est-ce qu'on fait ? On parle d'abord de lui.
Mais oui, feu. Hein ? Dernière participation de Romagnosi au championnat du monde, c'est ce crève-cœur canadien de Košice en 2019.
Ah, on s'en souvient, celui-là.
On se souvient des 4 heures de route derrière, être franc fou encore en repensant à cette égalisation canadienne à une seconde de la fin du match, avec mon routier polonais au volant, Jean-Fred, qui faisait ça très bien.
Ouais, heureusement que t'étais réveillé, parce que si on se souvient, il y avait 2 personnes derrière, on ne nommera pas, hein, qui étaient plutôt... l'œil était plus fermé qu'ouvert, on va dire. Et quand on est rentré à 3 heures pour poser la voiture, on était content qu'il y ait encore quelqu'un de vaillant à côté.
Mais depuis, Romagnosi, une saison Covid.
Oui.
C'est une saison où il y a eu une blessure, sauf erreur, en fin de saison. Il joue qu'une quarantaine de matchs en saison régulière et je pense qu'il finit la saison blessé et donc ils ne l'ont pas libéré. Il y a une saison enfant où il n'est pas venu parce que sa femme devait accoucher plus ou moins autour du mondial. Ça s'est fait en juillet, sauf erreur.
Oui. Et puis il y a une saison aussi où il avait une commotion cérébrale à la fin. Je ne me rappelle plus si c'était celle d'avant.
Oui. Non. Et là, il est à disposition du coach. Et comme tu dis, en fait, Romagnosi, c'est un ancien MVP de championnat du monde. Rien que ça, ça te place un joueur, j'ai l'impression. Quand l'équipe de Suisse gagne la médaille d'argent, c'est à chaque fois en présence de Romagnosi. Les 2 fois, il était présent.
Et de Nino Niederreiter aussi.
Et Nino Niederreiter, exactement. C'est chaque année un candidat au trophée Norris du meilleur défenseur de la Ligue. Enfin, il n'y a pas assez de mots pour expliquer à quel point ce joueur est crucial dans l'équipe de Suisse et à quel point sa présence changera, parce que moi je pars du principe qu'il sera là, changera tout à cette équipe de Suisse.
Ouais, on peut aussi se dire, il faut répartir 60 minutes de jeu. Tu sais que Romagnosi, tu peux lui en donner 25 sans aucun problème. En plus, il y a les power breaks comme en NHL.
Monte à 26-27 sans problème, effectivement.
Mais peut-être que contre des nations moins... j'aime pas le terme moins renommé, mais où il y a peut-être moins besoin de sa présence. Tu peux contrôler son temps de jeu et donner un petit peu plus à d'autres. Mais quand tu sais que tu dois compter sur lui et que tu dois lui envoyer entre 25 et 30, il n'y a pas de problème. Et c'est... une immense épine du pied. En plus, c'est 30 minutes, 25 à 30 minutes de qualité. C'est pas juste de dire, ouais, bon, ben, au moins, il est sur la glace. Non, il est sur la glace en power play, parce que ça change tout le power play. C'est tellement important de l'avoir dans des situations spéciales. En box play aussi, tu peux avoir. Tu disais, Norris, ça fait trois fois qu'il est finaliste pour le Norris. Il l'a gagné une fois en 2020. Une autre fois, il l'a perdu face à Kyle Macar. Et cette année, il y a de nouveau Kyle Macar qui est nominé. Lui est Quinn Hughes de Vancouver. Je ne sais pas s'il va le gagner, mais Romagnosi, cette année, c'est, en saison régulière, c'est 85 points en 82 matchs. Mm-hmm. C'est 23 buts. Des fois, on est là à se dire, ah ouais, honnêtement, dit comme ça, tu te dis, c'est un attaquant, en fait.
On oublie, en fait, ce que fait Romagnosi, j'ai l'impression, depuis qu'on est habitué.
Il banalise l'exploit.
On est clairement en train de banaliser ce que fait Romagnosi depuis toutes ces années. Et là, 85 points, c'est sa deuxième meilleure saison en carrière. Donc, malgré l'âge, entre plein de guillemets, parce qu'il n'est pas franchement vieux, le Romagnosi, il est 23e meilleur compteur de la Ligue. Tout confondu, hein, attaquant et défenseur compris, ce qui est quand même assez hallucinant. Et c'est ce joueur-là qui va renforcer l'équipe de Suisse. Et je pense que dans un second temps, on pourra parler de l'effet domino, on va dire. Mais là, pour rebondir sur ce que tu dis, Quinn Hughes, c'est 92 points, 17 buts. Kyle Macar, c'est 90 points, 21 buts. Romagnosi, c'est le meilleur buteur parmi les défenseurs devant Kyle Macar et Rasmus Dahlin, qui sera avec l'équipe de Suède, d'ailleurs, Rasmus Dahlin. Moi, je pars du principe que quand je connais les joueurs et qu'ils viennent, je me dis que c'est du lourd. Je connais moins la NHL que toi.
Mais toujours est-il que d'avoir un joueur comme lui, on sait, je ne dis pas qu'on s'est lamenté, mais on était toujours en 2022-2023, on avait un peu cet espoir de le voir débarquer éventuellement, puis de se dire à quel point ça aurait pu amener quelque chose. Parce que là, on a parlé que de l'aspect, on va dire presque purement sportif au niveau des points. Mais en fait, l'aspect mental aussi d'avoir ce joueur-là dans le contingent, et je pense qu'on peut associer Niederreiter aussi. Je me rappelle un article de ton collègue, je crois que c'était, il s'appelle Perrin, qui avait fait un truc sur quand ils étaient les deux à Nashville, puis quand Niederreiter a été tradé, à quel point ils étaient tristes les deux de ne plus pouvoir jouer ensemble. Donc en plus, ils ont un lien qui est fort les deux. Deux médailles d'argent, comme tu disais, avec l'équipe de Suisse en 2013 et en 2018. De les avoir là comme... parce que maintenant, c'est des vétérans. Enfin, on a l'habitude de les voir depuis 2000. Bah, Yossi, c'est depuis 2009, le mondial à Berne, qu'il a fait son premier championnat du monde. Et Niederreiter, c'était, je crois, l'année d'après, en 2010, à Mannheim. Ça fait longtemps qu'ils sont là, ces gars. Ils sont encore tout à fait valables pour jouer. Et ce que ça peut entraîner, en fait, de les avoir... Ça va pousser tous les autres, je suis persuadé en fait, que cet effet domino-là.
Absolument, et Romagnosi en général, c'est pas forcément sur le capitaine, dans le sens qu'il n'a pas forcément le C sur le poitrail, mais dans le vestiaire, c'est le capitaine clair de cette équipe. Il a ce rôle-là à Nashville depuis 2017, 2017-2018, il est capitaine là-bas, il était assistant auparavant. Il a tout vu, tout vécu, tout fait. Enfin, on avait vu une je ne sais plus quel championnat du monde il avait débarqué en cours de route. Et tu vois que l'équipe tourne, ça doit être à Bratislava si je ne me trompe pas, tourne instantanément avec sa présence, sa qualité à la relance, avec tout ce qu'il est capable d'apporter. Et ouais, ce serait une super nouvelle. Du coup, effet domino de la venue de Romagnosi, il y a Dominique Egli, Tobias Geisser qui s'en vont. Mm-hmm. Et Sami Kreis aussi dans une moindre mesure, Iñaki Baragano et David Ebischer, mais c'est les deux principaux que j'ai nommés. On pourrait être surpris de l'absence de Dominique Egli.
Oui.
Mais finalement, est-ce que c'est pas tout simplement le fait que Dominique Egli, c'est une sorte, alors, toute proportion gardée, hein, mais pas de clone, mais c'est une sorte de Romagnosi bis. Et du coup, ben, tu peux pas avoir, y a pas la place pour tout le monde dans cette équipe. Et finalement, ben, il fait les frais de cette venue-là. Parce que Dominique Egli aurait été un joueur qui aurait joué beaucoup en powerplay,
oui.
qui aurait un peu le même genre de rôle que Yossi. Donc forcément, dans la construction de l'équipe, et là encore une fois, on n'est pas en train de faire hockey manager, mais on fait une sélection nationale. Et dans cette configuration-là, tu peux te dire qu'un Dominique Egli est redondant par rapport à Romagnosi.
Absolument. Je regardais aussi pour les droitiers et les gauchers. Ben, on a trois droitiers, Fora, Glauser et Löffel, donc complètement normal. Je me demandais s'il allait faire 4 et 4 finalement. Il n'a finalement pas besoin parce qu'il a Romagnosi qui te détruit toute cette, cette équité, finalement, tu t'en fiches. Ta Romagnosi, tu comptes moins pour avoir des joueurs offensifs des deux côtés, finalement. Mais tu as Löffel, qui peut jouer un peu de power play. Il le fait très, très bien depuis des années et des années. Josi, Löffel, finalement, est-ce que tu as besoin de beaucoup plus, sachant que Kukan peut le faire c'est bon, en fait, parce que Romagnosi.
Absolument. Puis justement, Kukan, Löffel, t'as pas besoin d'église si t'as Romagnosi qui vient. Il y a un nom qui fait sourire pas mal de monde, je pense. C'est Sven Jung.
Oui. Ça, c'est un peu...
Sven Jung va disputer son premier championnat du monde. Il a 29 ans, 1m87, 86 kilos. Il marque de temps en temps un but par-ci, par-là. On se rappelle bien de lui pour son dernier match où il a envoyé Suomela à la tête la première dans la bande et il a pris une pénalité de match. Il a été suspendu derrière. C'est un défenseur hyper rugueux. Je peux comprendre dans la structure de son équipe que si tu as Romagnosi, tu as Löffel, tu as Kukan, est-ce que tu prends encore Egli qui va être redondant avec tout ça ou est-ce que tu dis, on a un Sven Jung qui est un défenseur, c'est le cinquième joueur qui a disputé le plus de boxplay cette saison en National League. Est-ce que c'est pas plus précieux d'avoir ce joueur-là pour le mettre dans ton défenseur numéro 7-8, d'avoir un Sven Jung plutôt qu'un Dominique Egli?
Alors, je comprends l'argument et je pense que...
C'est la réflexion là derrière, je dis pas
absolument,
qu'elle est juste.
Absolument, hein. Absolument. Moi, je regarde juste pour prendre des joueurs de ce type-là. On a Fora qui peut aussi jouer défensif, qui est un peu un joueur solide hein, avec son 1m92, 98 kilos. On a Christian Marty, évidemment, 1m93, 97 kilos. On en a déjà deux. Kukan peut un peu tout faire. Glauser, on a vu aussi qu'il était capable de tout faire. Mm-hmm. Est-ce qu'on a besoin d'un troisième? C'est juste la question que je me pose. Comme on a Marty et Fora, qui en plus, eux, ont une expérience vraiment importante de ces manifestations-là, de ces événements, de lancer... Alors, il est de 95, hein, le Sven Jung, 5 janvier, 29 ans, l'envoyer pour sa première. J'aurais pas été complètement surpris que Lucas Frick...
Moi j'allais à Lausanne, mais j'allais pas chez Lucas Frick.
Eldner.
Moi j'allais chez Fabien Eldner.
J'allais dire un des deux, effectivement.
De toute façon, ils vont toujours par paire. En fait, c'était ça, il n'y a pas la place pour les deux. Donc Fischer a dit désolé les gars, je ne vais pas faire de jaloux. Frick Eldner, vous n'êtes pas là.
Mais alors, à part ça, vu la construction, j'aurais plutôt imaginé que parmi ceux qui allaient rester à la place de Jung, j'étais entre Egli et Geisser.
Ouais.
J'étais étonné de voir Geisser ne pas rester. Mais là aussi, finalement, tu joues avec. Tu vas jouer probablement avec 6 défenseurs, finalement. Donc, il y en a 2, ils vont presque quasiment pas toucher la glace. Mm-hmm. Donc, si on part du principe qu'on a Josi Siegenthaler qui font une grande paire, on a Kukan Löffel qui sont très bons, on a Glauser, ça fait déjà 5, et encore Fora. Après, tu rajoutes encore ton Marty, puis tu es là, ouais, puis Jung est en 8. Pour moi, c'est un peu logique, quoi.
Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je propose qu'on fasse une pause, puis on enchaîne sur les gardiens.
Donc, les gardiens, j'avoue aussi que je ne suis pas surpris, mais on aurait pu se dire qu'un nom aurait pu être ajouté finalement, mais c'eût été difficile. Évidemment, alors je dis juste les noms, là, ce n'est pas une liste trop longue, ça va. Berra,
allez, je te laisse.
Giannoni... Et Akira Schmid.
Elle est tellement courte, tu peux la faire une deuxième fois.
Et le nom qu'on aurait pu imaginer venir, c'était bien évidemment Connor Hughes, vu ce qu'il a réalisé avec Lausanne en finale du championnat. Mais finalement, on a l'impression qu'il privilégie l'expérience de ces deux gardiens de 37 ans, Berra Giannoni, le duo presque inamovible. Ils ne sont pas tout le temps ensemble. De temps en temps, il y en a un qui vient et puis pas l'autre, mais... Là, ils sont là, les deux. Et puis, Akira Schmid, pour lui faire un petit peu goûter à l'équipe de Suisse, finalement, parce qu'il est néophyte, ce qui est un peu bizarre, alors qu'il joue en NHL et en AHL, de se dire que ça va être son premier championnat du monde.
Tu as quasi tout le temps raison sur les âges, donc je me permets de te reprendre une fois. Giannoni a 36 ans.
Il est
87, mais il va avoir 37.
Ah, oui, d'accord.
Mais comme je mets en avant que tu as quasi toujours raison, donc pour une fois, c'est faux. Mais ces deux vétérans... C'était très, à mon avis très clair au début de cette saison que vu qu'il n'avait pas dit à Giannoni Abera, les gars, merci pour vos services, mais on va se passer de vous. C'est que si les faits allaient, comme on avait dit là, au dernier épisode, hein, si les faits allaient faire des tournois amicaux à gauche et à droite et ils les usent pendant la saison, c'est parce qu'il va les prendre. Et c'est, pour moi, il y avait sûrement un agreement entre eux en disant bah, peut-être c'est la dernière, j'en sais rien. Quoique, avec le mondial en Suisse, tu sais jamais trop jusqu'où
mais
ils vont
aller.
Mais
qui sera après les JO. Donc en plus, tu as ces deux grosses manifestations. Hein.
Exactement. Il faudra voir comment ils jouent encore et à quel niveau. Mais on a une assurance tout risque avec ces deux-là. Ces deux gardiens de très, très haut niveau. On l'a déjà vu, Giannini, l'année passée, on ne sait toujours pas pourquoi il n'a pas joué le quart de finale. On n'était pas favorable à cette titularisation de Robert Maier. Alors oui, ce qui s'est passé derrière, ma foi, ben, c'est malheureux. Mais dans les faits, tu as un gardien qui a 7 titres de champion de Suisse. Et tu peux compter sur lui et tu dois compter sur lui. Donc l'équipe de Suisse, elle a ces deux portiers-là. Puis comme tu l'as dit, Akira Schmidt est là pour humer l'air. Peut-être que si ça se passe bien et que l'équipe de Suisse a un peu de mou en fin de championnat de tour préliminaire, tu peux lui donner un match peut-être.
À cela près que d'habitude.
On parlera du calendrier juste après.
Voilà, le calendrier est moins favorable pour ça. Mais...
Absolument. Mais Connor Hughes aurait clairement mérité d'avoir une place. Après, il n'y en a que 4. Schmidt, c'est un gardien de NHL qui a beaucoup d'avenir. Hughes aussi, je pense que les deux auraient tout à fait mérité. Puis je pense que ce n'est pas parce qu'il n'est pas là cette année qu'il ne sera pas là l'année prochaine. Je n'ai pas la raison. Est-ce qu'il a été contacté par Fischer et qu'il a décliné? Est-ce qu'il a dit qu'il était trop fatigué pour venir? Est-ce qu'il était à disposition puis il n'a juste pas été? Je n'ai pas la réponse à ça. Mais toujours est-il qu'il n'y avait que 3 places. Moi, je ne trouve pas ça illogique d'avoir ces 3-là.
Non. Par contre, tu mets qui comme... Est-ce que tu mets un titulaire indiscutable ou tu fais un peu on alterne.
Tu alternes, surtout que on l'a dit avant, c'est quand même deux gardiens qui sont âgés. Pour un gardien, ça va encore, mais quand même. Puis tu as un match le 12 et le 13 en back-to-back, 18-19 en back-to-back. Donc déjà là, que tu sais que tu vas avoir une alternance devant ton filet avec ces 4 matchs-là de chacun. Donc tu en as déjà une bonne partie plus de la moitié de ton tour préliminaire qui est bloqué pour ces deux back-to-back. Puis après, à mesure que le tournoi avancera, ben peut-être qu'il jouera la main chaude, mais je ne suis même pas sûr. À mon avis, il va faire une alternance jusqu'au moment où il va falloir décider.
Mais je me demande quand même quel gardien va être le premier, en fait, qui sera le titulaire, on va dire, pour commencer ce championnat du monde. Je ne sais même pas s'il sera pas d'impact sur la suite, mais... Je me pose la question.
Ouais, sachant qu'il y a, bon, on peut parler du programme. On commence par la Norvège vendredi à 16h20. Pour une fois, il n'y a pas de décalage horaire, rien. On ne doit pas commencer à réfléchir, à se casser la tête pendant tout le championnat du monde sur quelle heure est-il en Suisse. On aura le casse-tête des couronnes tchèques, mais bon, ça va. J'ai vu que c'est pas si compliqué. 1000 couronnes tchèques égale 40 francs. On va s'en sortir. On est prêt. Mais on commence vendredi par la Norvège après jour de congé. Autriche, puis c'est deux adversaires où tu sais que voilà, le premier gros adversaire c'est les Tchèques le lundi à 20h20 et moi je pense que c'est là où ce sera intéressant de voir qui sera devant le filet ce soir-là, plus que pour les deux premiers matchs.
On passe aux attaquants.
Absolument.
Déjà, pas très étonnant, André Sambul est là.
Voilà.
19e championnat du monde, il a 131 parties de championnat du monde, quand tu penses que en fait il en a raté 2. Celui de 2018 où la Suisse va en finale, donc ça aurait fait 10 matchs de plus, et le championnat du monde annulé pour cause de Covid en 2020, qui aurait dû être en Suisse, où il y aurait eu de toute façon très probablement quart de finale, donc 8 matchs. Tu rajouterais encore 18 matchs à son nombre de sélections, ce qui est proprement hallucinant. Il a plus de 40 ans. Et le pire, c'est que quand tu le vois, les matchs de préparation... Il n'est pas ridicule. C'est que c'est même pas, on ne peut même pas dire, ah bah tiens, on prend André Sambul parce que, bon, comme tu aimes bien dire, il a un ordre de marche. Puis lui, désolé chérie, Patrick Fischer, j'ai reçu la convocation de l'armée, je dois y aller, quoi. C'est pour la patrie, quoi.
Exactement. On le remercie d'ailleurs de défendre la patrie aussi bien. Au niveau des départs, avant de parler des arrivées, au niveau des attaquants, il y a Tanner Richard de Genève qui est reparti. Il y a Tino Kessler, Mike Künzle. Il y a Tyler Moy et Marco Lehmann qui ont quitté le camp. Rien ne me choque dans le... Tanner Richard, à la limite.
Oui.
Mais dans quel état physique est-il? Ça, je ne sais pas. Parce qu'il a été blessé toute la fin de saison. Il n'a pas rejoué depuis la finale Ligue des Champions gagnée contre Schelle FTO. Et derrière, ben, il vient faire le camp de préparation, il part une semaine parce que sa femme a accouché, et il revient, donc
il marque.
Ça, c'est à mettre à son crédit, à part ça, d'être revenu. Ça doit être une période difficile pour lui aussi. Dans quel état d'esprit était-il? Je ne sais pas, mais lui, j'aurais pu tout à fait le voir avoir une place. D'ailleurs, il avait été très bon l'année passée à Riga. Donc ça, c'est la petite surprise au niveau des attaquants.
Très bon à l'interview aussi, d'ailleurs.
Il est bon à l'interview.
Ça, on avait fait un épisode avec lui qui avait vraiment bien marché. Et c'était une super découverte aussi. C'est comme si tu avais un peu levé le voile sur le fait qu'il était tout à fait capable de s'exprimer en français. Après, tous les collègues allaient se dire « Ah bah tiens, on peut aller parler en français avec lui ». Mais c'était même avant, pendant le run des playoffs.
Exactement, le pauvre.
sinon, bah, là, je suis un tout petit peu obligé de...
Fais ton plaisir.
Non, mais on peut dire que...
Les joueurs ont été... On peut dire ceux qui sont arrivés.
Arrivés. Ouais. On a parlé de Niederreiter. Dans les joueurs arrivés, il y a Sven Andrighetto, Denis Malgin. Ceux qui ont suivi la finale se disent bien que ce qui s'est passé au match 7, il y avait des chances qu'ils ne puissent pas venir. Et puis sinon, Ken Jaeger aussi de Lausanne. C'est sa première sélection. En fait,
premier mondial,
ouais. Ouais, exactement, pardon, premier mondial. Il y a quatre néophytes, donc Akira Schmid, Sven Jung, Ken Jaeger et Thierry Bader, le joueur de centre de Berne, qui est un joueur à la manière de Ken Jaeger que Patrick Fischer aime beaucoup. Ça fait plusieurs années. Ils font partie de ces joueurs que Fischer aime bien. Mais je pense que c'est mental pour moi. Quand je vois le nom de Thierry Bader, je me dis, waf, tu as cité les noms qui n'ont pas été pris comme Tanner Richard ou bien peut-être un Tyler Moy, voire même un Marco Lehmann, parce que je trouvais que c'était un...
Là, on parle de deux ailiers voilà. Très offensifs. Thierry Bader est un centre de 26 ans. Il ne faut pas oublier que sa troisième saison a plus de 15 points. Là, il vient de faire 17, 17 et 19 points avec 10 buts cette saison. Thierry Bader, c'est pas un mauvais joueur. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce...
Ah, mais j'ai un a priori, sais.
Mais je n'étais sûrement pas le seul. Plus de 15 points en National League pour un joueur qui n'a pas un rôle ultra offensif, et ça ne va pas être son rôle non plus en équipe de Suisse. Et justement, à Berne, je ne suis pas en train de dire que c'est un bon choix ou autre, mais je comprends du coup le choix là derrière. Non, à Berne, il joue ses rôles de... Bas de line-up, il est capable de jouer centre de 4 sans aucun souci. C'est un joueur qui est capable de jouer du box-play. Offensivement, il ne va pas apporter grand-chose en théorie dans cette équipe de Suisse, mais ce n'est pas ce qu'on va lui demander. Il ne va pas faire d'erreur, normalement. Et il est fiable, il est capable de jouer ses 15 minutes en National League tous les soirs sans aucun souci. Je suis évidemment très surpris, mais moi, en fait, à choix, j'aurais plutôt gardé Bader que Senteler. S'il fallait vraiment se dire « Ah, il y en a un qu'il faut virer », mais Fischer adore Senteler, ouais. Il est tout le temps là. Donc je ne remets pas en question ce choix-là non plus.
Ou alors, est-ce que tu sélectionnes Jaeger? Ça peut être aussi la question à se poser. Même s'il a été bon avec Lausanne, même si c'est un bon centre, là aussi, de troisième ligne, tu peux pas. Tu sais que ton centre numéro un, c'est Nico Hischier. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Le centre numéro deux dans cette configuration-là, est-ce que c'est Gaëtan Haas? Qui est aussi capable de défensivement d'être assez bon, mais si tu lui demandes d'être un peu plus offensif, il peut prendre ça. Kourachev peut même aussi évoluer au centre, il sait le faire.
Mota Turka, enfin, qui joue au centre, mais il l'a mis à l'aile sur toute la préparation. Et ça, c'est une vraie question pour moi en vue de ces championnats du monde. Est-ce que vraiment il va mettre Turka à l'aile?
Exactement. Est-ce qu'il va mettre Turka à l'aile? Est-ce qu'il va faire une ligne NHL avec Niederreiter, Hischier, Kourachev? Ou est-ce qu'il va laisser sa ligne qui a plutôt pas mal marché avec Turkauf, Hischier, Kourachev, ce qui lui permet d'avoir une deuxième vague avec peut-être, imaginons, Niederreiter, Haas, Andrighetto, qui est une ligne relativement offensive. On aurait pu imaginer un Malgin à ce niveau-là.
Et après, tu fais Herzog, Jaeger, Simeon. Moi, je commence à bien aimer ce que...
Oui, mais il aime bien faire sa ligne des Ougois avec Senteler, tu le disais aussi.
Moi, je trouve Jaeger bien meilleur. Moi, ouais. J'aime beaucoup plus Ken Jaeger que Sven Senteler. Et pour moi, Jaeger aura un rôle à jouer dans le championnat du monde. Je suis assez convaincu parce qu'il fait une saison merveilleuse avec Lausanne. Il a été très, très bon. Il a fait un gros pas vers l'avant.
Même si on est d'accord qu'en finale, on a un petit peu moins parlé de lui quand on a fait nos étoiles. Mais si on prend la saison au complet, il n'y a rien à dire. Mais sur les derniers matchs, c'était peut-être aussi plus compliqué avec les match-ups.
Absolument, mais Ken Jaeger, moi je le vois vraiment, j'espère vraiment qu'il va avoir un rôle parce que je pense qu'il va apporter beaucoup. Puis après, si t'as encore une ligne où t'as Chervet et Berchi sur une quatrième ligne, tu commences à avoir quelque chose d'assez sympa au niveau de ton ossature, je trouve.
Bah, et il y a Ambul, en fait, et c'est
évidemment.
Ça. Et donc, d'avoir cet esprit de... Moi, je ne vais pas les appeler les pitbulls, mais c'est clair que d'avoir Chervet et Berti, qui sont capables, qui sont des joueurs rapides, d'avoir un centre avec eux qui est peut-être bon défensivement, même s'il aime bien des fois mettre Berti au centre aussi.
Absolument.
Mais Berti expliquait, je me rappelle, quand je disais, ah, mais t'es, je crois que c'était en 2021, il disait, ah, mais t'es bon au face-off. Puis il me dit, ouais, mais regarde à quel point Ambul fait un travail monumental pour que je puisse gagner le face-off. Et que c'est vraiment un travail du trio à l'engagement et pas seulement moi qui suis bon. Donc, mais cette ligne, en tout cas, ces deux ailiers. Chervet, on se rappelle aussi quand il se blesse, ce crève-cœur que c'était. Hein. Calvin Turcov s'était blessé aussi à un championnat du monde. Là, j'aimerais bien que ces joueurs-là puissent être en santé. Et cette équipe de Suisse, finalement, quand on la regarde dans son ensemble, elle est assez bien balancée. Il manque peut-être un centre. C'est clair que tu pourrais t'imaginer Haas être capable de le descendre en centre de 3 et te dire à ce moment-là, tu as un centre 2, un poil plus offensif comme un Malguin qui manque ou un Pius Souter ou peu importe. Là, c'est pas mal. Je trouve qu'elle est, elle est construite. On voit l'ossature, on voit la structure de ce à quoi il a réfléchi ou ce qui nous semble. Et tu l'as bien dit, avec Bader et Jung, qui peuvent peut-être surprendre. Mais si on regarde plus en détail, on se dit OK.
On termine par ce qui nous attend en République tchèque. Donc, comme on l'a dit avant, hein, la Suisse est dans le groupe qui se jouera à Prague, donc le groupe de la République tchèque, nation hôte. Et comme je l'ai dit une fois ou l'autre dans... à ce micro, la Suisse est dans le groupe des forts cette année, avec Finlande, Canada, République tchèque comme grosse nation.
Oui,
il va falloir en battre une des trois pour ne pas se choper le vainqueur de l'autre poule, à savoir probablement les États-Unis ou la Suède. Éviter de voyager si possible, mais ça c'est de la musique d'avenir. Il y a peu
comme
de chance.
Il y a les tchèques.
Ouais, il y a assez peu de chance. Ensuite, c'est Danemark. Jamais très simple à jouer.
Non.
Norvège, Autriche et Grande-Bretagne. Donc, en gros, c'est ce Suisse-Danemark du 18 mai qui est censé être un peu la clé pour se qualifier pour les quarts de finale. Je dis ça parce que Finlande, Canada et République tchèque, c'est vraiment, vraiment très solide. La Tchéquie à la maison, ça va être solide. Le Canada, on a vu l'équipe. Il y a même des noms que je connais. Ça veut dire à quel point...
On pourra juste faire un petit passage sur les stars. J'aurais voulu aussi qu'on revienne... Juste sur le cas Kevin Fiala.
Oui, et Damiria.
Ah, et Damiria, oui, exactement. On fait ça avant de revenir. Kevin Fiala, sa femme est censée accoucher. Alors, c'était impressionnant d'avoir la date précise.
C'est Lars Weibel qui l'a dit en conférence de presse.
Alors, donc, on peut lui faire confiance. Le 21 mai. Maintenant, ils en ont parlé à SRF lors d'une interview que potentiellement, si l'enfant devait venir avant... il pourrait, en tout cas, on a l'impression qu'ils ne fermaient pas totalement la porte à Kevin Fiala.
Ouais.
Ce qui, moi, m'étonnait en me disant, oui, bon, mais quand l'enfant est né, c'est son premier, il va rester avec sa femme et tout. Mais on sait que Kevin Fiala, même si des fois, il a pu paraître, quand il était plus jeune, un sentiment un petit peu arrogant, hein, comme ça. Mais alors, par contre, il est toujours venu quand il a pu. Une fois, il avait parié sur lui-même, je crois que c'est lui qui avait payé son assurance. Enfin, vraiment, on ne peut rien lui reprocher au niveau de son engagement vis-à-vis de l'équipe de Suisse. Damiria, c'est aussi une question d'enfant, parce que oui. Sa femme, ils attendent leur premier enfant pour le mois de juin. Et il a dit à Fischer, compte pas sur moi au début, enfin pour ce championnat du monde. Sinon, c'est clair que vu la finale qu'il a fait et les playoffs, il y a de bonnes chances qu'il aurait eu une place dans cette équipe. Mais je trouve quand même que les places sont chères, hein, finalement.
Il aurait eu sa place, Damiria. Par contre, pour préciser, il y a eu le cas Liane Bixel récemment où il a été exclu pour jusqu'en 2026, y compris pour avoir refusé un ordre de marche, dans les conditions que met Patrick Fischer au moment de faire ses ordres de marche. C'est clairement pas un problème si un joueur a ce genre de problème, pas de problème en l'occurrence, ce n'en est pas un, mais de cas personnel, ce n'est pas la même chose que de refuser une convocation. Et il ne faut pas faire l'erreur de mélanger, de dire « Ah ouais, mais alors pourquoi Damien Riaille pourrait revenir, puis pas Liane Bixel ?» Ce n'est pas le même genre de cas.
Ouais. D'ailleurs, dommage pour Liane Bixel, parce que je pense qu'il aurait eu clairement une place dans cet effectif, mais ma foi, voilà, c'est les règles et on peut parler peut-être de la dureté, je ne sais pas si on l'avait même déjà évoqué, oui. la dureté de la sanction, le côté 2026, mais sinon, pour le reste, on est d'accord. Les stars, bah, on va parler d'abord du... Juste de revenir, tu parlais des Finlande, Tchéquie et Canada. Les trois nations, en fait, qui sont les mieux armées selon les bookmakers pour aller au bout, c'est Canada, dans le groupe de la Suisse, États-Unis et Suède, qui ne sont pas dans le groupe de la Suisse. Après, il y a un gap. Et, parce que quand on voit les effectifs, effectivement, c'est plus impressionnant. Le Canada, alors il y a Connor Bedard, évidemment, qui sera la sensation ou l'attraction du haut de ses 18 ans. Mais les Canadiens, ils ont toujours ce petit côté, si on peut mettre un jeune, un gars qui peut peut-être être pris assez haut à la draft. On avait eu Fantilli, qui est d'ailleurs de nouveau là. C'est McLean Celebrini qui sera très vraisemblablement numéro 1 de la prochaine draft. En tout cas, selon tous les listings, il est numéro 1. Lui, il n'a même pas encore 18 ans. Donc, ça va être intéressant de voir quel rôle va lui être donné. Et sinon, les Américains, on a Tkachuk, par exemple, aussi, qui est un joueur des Sénateurs, qui a marqué plus de 70 points. Les Suédois arrivent avec Edman et Carlson. Là, tu parlais du Norris Trophy de Josi. Ben, on a plusieurs Norris, ou en tout cas des finalistes au Norris entre les deux. Alors, il y en a une pelée. Même si Erik Karlsson avec Pittsburgh, c'est plus compliqué.
L'équipe de Suède, c'est quelque chose. Hein.
Ouais.
Moi, je t'ai écrit l'audio en disant on ne veut pas mettre un peu d'argent sur la Suède, absolument, championne du monde. Parce que derrière, quand tu as Dahlin, Edman, Carlson, je pense que ce n'est pas si mal. Il y a des joueurs de NHL partout, il y a des joueurs draftés partout, on n'a encore pas l'équipe complète actuellement, mais
il y a Lucas Raymond par exemple aussi de Détroit, il y a des Ericsson Ek, c'est les gars
de Los Angeles,
voilà,
le frère du fantôme qui est venu à Lugano en fin de saison.
C'est des gars qui marquent, il y a plusieurs marqueurs de 30 buts, donc forcément, mais tu sens que la Suède aussi qui n'a plus été titrée depuis 2018 et la victoire contre la Suisse depuis 2018.
Ça, on n'en parle plus.
Voilà, on n'en parle plus, c'est Alésia. Là, ils ont envie, et Sam Alam a quand même, je pense, de la pression étant donné le roster qu'on lui a fourni. Il y avait aussi des questions de se dire, est-ce qu'il y a certains joueurs, on veut les prendre pour la... En disant, les gars, avant les Jeux Olympiques en 2026, où tout le monde voudra venir, montrez-nous que vous êtes capable de venir quand c'est un petit peu moins intéressant. La Finlande n'est pas... folichonne en termes de joueurs de NHL.
Ni en termes de joueurs suisses, au passage. On aurait pu s'attendre à avoir plein de joueurs qui viennent du championnat de Suisse, c'est pas le cas.
Oui, parce que il y en a quand même quelques-uns. Il y a Seteri, il y a Lehtonen, il y a
Mennen de
Longnau.
De Longnau.
Sarijärvi aussi de Longnau.
Aussi.
Ricola, ouais. D'ailleurs, Longnau, tu te dis, trois joueurs, c'est presque eux qui fournissent le plus l'équipe de Finlande, c'est drôle. C'est clair que les joueurs de Genève. Mais ça a été dit assez tôt, ils avaient été en partie convoqués, puis ils ont décliné aussi parce que ça avait été une longue saison pour eux.
Oui, avec Mikael Granlund, le frère de Marcus Granlund, qui, à ce que j'ai un peu déjà écrit une fois ou deux, devrait, c'est encore pas officiel, mais je suis sûr que c'est une question de temps, rejoindre Genève Servette, mais ça on n'est pas encore sûr si je ne me trompe pas. Non, la Finlande est l'équipe peut-être la moins impressionnante sur le papier.
Mais c'est ça, on
sait. Sur le papier.
On sait qu'ils vont être de toute façon bons, il n'y a pas de souci. Les Tchèques aussi, j'aurais pu imaginer avoir une équipe, comme c'était chez eux, d'avoir une équipe un peu plus impressionnante sur le papier.
Et Červenka.
Voilà, Červenka, mais il est quand même de 1985 et Dieu sait qu'il nous impressionne avec, en championnat de Suisse. Mais on a aussi vu que des fois, c'est normal. Il a le droit de se faire rattraper un peu par les années. Et il y a Matej Stranski de Davos qui est un magnifique joueur, magnifique buteur. Exactement.
Et Dominik Kubalik qui avait été extraordinaire à Ambry il n'y a finalement pas si longtemps lorsqu'il était passé furtivement en équipe de Suisse. Et voilà, sinon il y a le frère de Spacek, mais c'est pas le frère, il y a David Spacek drafté en NHL aussi.
Alors dans les équipes aussi que moins censées être moins fortes que la Suisse, on peut juste dire que j'ai pas encore vu Zuccarello et j'ai regardé s'il était sélectionné, j'avais cru voir qu'il pouvait venir, mais pour l'instant avec la Norvège, il n'était pas dans la sélection que j'ai vue. Par contre, je crois que Marco Rossi, l'Autrichien qui a été formé à Zurich, sera avec l'équipe d'Autriche de Roger Bader.
Ça va être un sujet que tous les Suisses allemands vont nous faire. Thierry Bader contre Roger Bader avant Suisse-Autriche, ça va être magnifique.
Et il y a beaucoup de... Il y a pas mal de joueurs. Il y a Kilian Zündel, je crois. Il y a Bernd Wolf et Dominik Zverger, assez habituel. Et
Thomas Raffel.
Oui, très juste.
Frère de...
Et aussi Schneider qui avait joué à Bienne. Bref, il y a quelques noms qu'on connaît dans l'équipe d'Autriche. Et puis le Danemark, par contre, pas vu de Nicolas Jellers.
Non. Pour l'instant, j'ai rien vu de le concernant.
Qui est quand même, je sais pas si c'est une bonne chose pour la Suisse, parce que la Suisse, normalement, vu la qualité de son contingent, même si la préparation a été assez difficile, elle a quand même été gagnée un de ses matchs en Tchéquie pour quand même montrer qu'elle n'allait pas perdre chaque fois contre tous les gros. Et que contre la Lettonie, c'était nettement mieux. Et puis contre la Suède, c'était bien aussi. Donc honnêtement, j'étais un peu dubitatif. Il y a une dizaine de jours. Et je suis un petit peu plus confiant sur la qualité de cette équipe de Suisse qu'on va avoir à Prague.
Et voilà, nos termes de ce premier épisode de l'épopée tchèque qui va commencer pour moi mercredi, donc ce mercredi vu qu'on a enregistré lundi, mais on le publie que le mercredi, je suis censé déjà être en Tchéquie si tout s'est bien passé. Toi tu voles jeudi
soir, ouais,
on se voit là-bas. Soir, je savais pas,
non.
Et premier match vendredi, nous à voir, on va être actif de toute façon durant le championnat du monde, 4, 5, 6 épisodes selon la chance qu'on peut avoir, selon notre temps à disposition, selon l'envie, mais l'envie elle est souvent là quand même, donc ouais. Ça ne va pas être trop un problème. D'ici là, on est à disposition pour répondre à toutes vos questions, à les récolter aussi si besoin.
Et puis on peut aussi dire aux gens peut-être de nous donner leur avis sur cet effectif en fait de l'équipe de Suisse.
Et petite dédicace à Régis que j'ai croisé dans un concert en Valais qui m'a dit « Ah mais t'es pas que dans les patinoires !» Je dis « Non, je suis pas que dans les patineurs, dit « Ah, ça me fait plaisir de te rencontrer. » Je dis « Merci, ça fait plaisir. » Donc, Régis, dans un concert du Palp Festival en Valais, les Valaisans nous écoutent aussi, pareil. Donc, salutations à Régis et puis à bientôt.
À bientôt.